Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Au ras des pâquerettes. Bonjour et bienvenue dans cette émission d'Aura des pâquerettes, émission produite tour à tour par les radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mois-ci, c'est nous qu'on s'en occupe, Calade, radio du Beaujolais et du Val-de-Saône. Et on vous propose aujourd'hui une émission en deux temps. On va parler d'abord de questions économiques à l'échelle locale. Et on va rencontrer pour ça la gérante d'un magasin bio qui promouvoit l'alimentation locale et qui recevait le jour de notre visite l'association Lagonette qui a donc créé une monnaie locale. L'occasion de se demander comment ça fonctionne. Et puis dans un second temps, on va parler culture et musique avec un artiste lyonnais de passage dans le Beaujolais pour la sortie de son dernier album au mois de septembre. C'est Kent, ex-leader du groupe Starshooter dans les années 70, auteur, compositeur, romancier, auteur de BD. C'est notre journaliste Sylvie Rosier qui est partie à sa rencontre. Vous écoutez Au ras des pâquerettes.
Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Je suis dans un magasin qui s'appelle Saveur Nature, qui est à Villefranche. Moi, je le situe à côté du parc Vermorel. Comment est-ce qu'on pourrait le situer? Ça vous va,
ouais, Marjorie? Très bien.
Très bien. Eh bien, la voix que vous venez d'entendre, c'est Marjorie François qui est avec moi. On a Benjamin Jaïr aussi qui est pas bien loin.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Et puis, déjà installé au micro, on retrouve Blandine Dufour. Bonjour.
Bonjour.
Co-présidente de Lagonette.
C'est bien ça. Ce titre.
On va commencer par parler du Saveur Nature, si vous voulez bien. Si vous deviez décrire ce lieu, comment est-ce que vous vous y prendrez, avec quel mot?
Eh ben, c'est un magasin bio de proximité. Proximité parce qu'on est implanté du coup plutôt en zone urbaine et c'est une volonté qu'on a eue de rester là et de ne pas de se mettre en zone périphérique, dans toutes les zones commerciales, pour que les gens puissent venir à pied, à vélo, de manière simple, acheter leurs produits de consommation courante. Et puis de proximité, parce qu'on a vraiment à cœur de travailler le plus en local possible pour tous nos appros, que ce soit évidemment le frais, les fruits et légumes, la viande et même les produits transformés. Donc dès qu'on a une solution locale, on la prend. Dès qu'on a une solution régionale, parce qu'il n'y a pas de local, on prend. Et puis après, on va chercher en France ce qu'on ne trouve pas. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de relocaliser au maximum notre consommation.
Et il y a un panneau quand on rentre qui est juste devant la porte avec écrit ici c'est bio. C'est tout bio?
Alors c'est tout ce qui peut être bio et bio.
Ouais.
Donc bio c'est un mode de production.
Ouais.
Donc du coup on peut être bio quand on produit. Donc, typiquement le sel, ça n'existe pas le sel bio. Parce qu'en fait, on le récolte comme ça, on cultive pas. Donc par contre, il y a d'autres labels qui existent, qui permettent de garantir ces genres de produits. Nous, on aime bien travailler avec les labels Nature et Progrès, qui est un autre cahier des charges, qui n'est pas le logo AB. Quoi. Mmh. Mais donc voilà, il y a quelques petites... par exemple, le poisson sauvage, il ne peut pas être bio. Quoi. Quand on va pêcher une sardine,
on ne peut pas garantir
voilà, donc, si ce n'est pas de l'élevage. Donc, voilà. Mais par contre, tout le reste... 98% du magasin est bio. Après, il y a aussi les produits d'entretien qui ne sont pas bio au sens propre du terme. Ils n'ont pas le logo AB, puisqu'on ne les produit pas non plus, on les fabrique. Mais il y a d'autres logos. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les logos qui existent.
Oui,
et tous les cahiers des charges,
beaucoup.
C'est un peu compliqué. Notre boulot à nous, c'est en fait de faire cette sélection, ce tri-là, et de donner confiance aux gens qui viennent pour dire que nous, on a fait ce boulot-là, vous pouvez y aller, on l'a sélectionné pour vous. Quoi.
Je me suis demandé, en regardant un peu bio et tous les petits logos qu'il peut y avoir derrière les produits et les différents labels que vous avez évoqués, il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il n'y en a pas des grosses machines commerciales qui se sont créées des labels un peu verts qui marchent bien et que finalement, il n'y a pas beaucoup d'efforts derrière?
Du greenwashing, il y en a pas mal.
Ouais,
le plus à la mode, en bon français, le plus à la mode, c'est le fameux logo HVE. Donc
ouais,
haute valeur environnementale,
d'accord,
qui veut dire absolument pas grand-chose, mais c'est pour dire
On s'en soucie un peu.
Voilà, non mais on fait gaffe. Hein. Ouais, des pesticides. Ouais, non mais on en met, mais on fait gaffe. Quoi. On n'en met pas trop quand même, quoi. Donc vous pouvez y aller. Donc voilà, donc effectivement. Et puis après, nous on s'arrête pas finalement au logo bio, parce que ce que je disais, bio c'est une manière de produire. Et c'est tout, malheureusement. C'est-à-dire que tout ce qui est. Nous ce qu'on veut aussi, c'est vérifier que tout ce qui est la dimension sociétale, environnementale, éthique est derrière. Et typiquement, on peut faire des carottes bio, donc produits sans intrants chimiques, en Moldavie. Ramassé par des esclaves agricoles sous-payés qui dotent. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Et c'est bio. Donc, ça, nous, on refuse. Et derrière, derrière le label bio, nous, il y a d'autres valeurs qu'on a à cœur de porter et de soutenir et qui expliquent des fois aussi la différence de prix entre deux produits bio. Mais parce que pour nous, ça ne suffit pas d'être bio. Quoi. Derrière, en gros, il y a. Voilà. Nous, pour nous, le bio, ce n'est pas qu'une étiquette, ça doit être une éthique.
Vous avez évoqué les prix. En général, on associe facilement le bio, c'est cher, et tout ce qui est éthique, ça coûte un peu plus cher.
Oui et non. Oui et non. Après, c'est en fait, on paye une valeur plus juste. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se dit qu'on va faire ses courses et qu'on achète un poulet moins cher au kilo que sa salade, c'est peut-être qu'il y a un problème, parce que le poulet, même si on l'élève très très vite en conventionnel, le poulet, parce qu'en gros on mange des ados qu'on deux mois, quoi, pendant ce temps-là il a quand même mangé. Et on lui a donné des grains. Ouais. Et finalement vous payez votre poulet moins cher que les grains qu'on a donnés au poulet. Donc, et il y a plein de coûts cachés, parce que ce que vous ne payez pas dans le prix direct du poulet, c'est les subventions, c'est la PAC, c'est le traitement de l'eau, c'est tout ça que finalement vous ne payez pas directement. Donc en bio, il n'y a pas toutes ces aides-là. Très peu. Donc, on paye un prix plus juste et une valeur plus juste des choses. Après, souvent, nos clients, ils nous disent que, par exemple, sur les fruits et légumes, eh ben, en fait, on est moins cher que le conventionnel.
Ouais. J'allais vous demander justement, il y a l'inflation en ce moment et les produits.
Alors, on l'a subi aussi, mais finalement, beaucoup moins que le conventionnel, parce que dans l'inflation, quand on regarde un peu le pourquoi du comment et quand on décortique, donc il y a. Le coût des matières premières qui peut être là, mais souvent parce que. Pourquoi ? Parce que les matières premières, elles viennent de loin. Donc, comme il y a des troubles au niveau mondial, et ben, du coup, ça surenchérit ces matières premières-là. Il y a le coût du transport qui a explosé à cause du coût de l'énergie. Donc, ça, ces coûts-là, donc, on subit aussi. Sauf que nous, nos produits viennent de moins loin. Ouais. Donc, l'impact transport,
il
est beaucoup moindre. On n'a pas. La récolte de blé bio en France, elle n'a pas été impactée par la guerre en Ukraine. Donc nous, on produit les pâtes d'origine France qu'on vend, elles ont augmenté de quelques pourcents à cause du coût de transport, etc. Les pâtes fabriquées en Italie avec du blé, etc., elles ont pris 30%. Ouais. Donc en fait, il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait. Et après, ce qui est aussi important, c'est que quand on consomme bio et qu'on on évolue dans sa manière de consommer, si on consomme bio comme on consomme en conventionnel, donc en mangeant effectivement de la viande midi et soir, etc., ça devient très très cher, effectivement. Mais l'idée, c'est de changer aussi sa manière de s'alimenter, sa manière de consommer. Il y a plein de trucs quand on vient en magasin bio qu'on n'achète pas parce qu'il n'y a pas de tête de gondole avec le Spirou, le machin, le truc, le bidule. Et du coup, finalement, quand on fait, quand on bascule, on se rend compte que on achète, ça coûte pas beaucoup plus que ça. Ensuite, les enfants, moi, par expérience, ils sont pas malades. Donc finalement, on ne dépense pas en médicaments, on dépense pas. Donc il y a tout un effet. Enfin, on change un peu la manière de consommer. On se déplace plus à pied, etc. Et finalement, mais c'est un peu pour faire le parallèle, c'est une polémique qui gonfle en ce moment sur la voiture électrique. Si on fait des voitures électriques comme on faisait des grosses voitures thermiques qui pesent 2 tonnes avec et qui ont 500 km d'autonomie, ça marche pas. Si on réduit notre consommation, qu'on fait des petites voitures pas lourdes, etc., et qu'on a de l'énergie renouvelable et compagnie, c'est plus la même. Donc il faut, voilà, c'est une approche globale qu'il faut avoir.
Changer ses habitudes. Quels leviers on a et quels leviers sont utilisés dans ce magasin pour changer l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement ? Vous avez parlé des transports avec la proximité avec vos fournisseurs. Il y a quoi comme leviers qui sont utilisés ?
Il y a effectivement ça. Il y a le fait de travailler en proximité, ça permet à la fois de réduire l'impact transport, à la fois aussi de redévelopper l'économie locale. Et ça, c'est super important parce que on l'a vécu de plein fouet il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un levier. C'est aussi beaucoup de pédagogie, finalement. C'est-à-dire que nous, on est un magasin, on fait 270 mètres carrés. Et en permanence dans le magasin, vous avez toujours au moins 2, 3, 4 personnes qui sont là pour accompagner nos clients, pour expliquer. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette proximité, d'avoir finalement de mettre de l'humain dans nos relations. Et on voit que c'est une vraie manière de changer les choses. Il y a l'implantation, on en a parlé, hein, le fait d'être en ville. Si aujourd'hui il y avait des commerces de proximité, c'est en train de tout disparaître. S'il y avait davantage de commerces de proximité, les gens ne seraient pas obligés de prendre la voiture. Ouais. On entend dire des fois qu'il y a trop de magasins bio. Sauf qu'en fait, vous allez à Lyon, c'est la guerre des magasins bio, ils sont les uns en face des autres. Et puis vous allez dans le Beaujolais, vous faites 40 km pour pouvoir trouver un magasin. Donc c'est aussi porter finalement des petites structures de proximité qui permettent de redonner du sens, de se faire plaisir quand on vient bosser, de se faire plaisir quand on fait ses courses parce qu'on a un accueil sympa et qu'on connaît les gens. Donc il y a tous ces leviers-là qui existent. Le fait de pouvoir habiter à proximité de son lieu de travail, bon, ça nous, on y peut pas grand-chose, mais ça permet. Donc il y a tous ces leviers-là qui existent. De sortir, on va en parler aussi, de sortir des systèmes de spéculation bancaire. C'est aussi des moyens qui permettent de...
Ça a du sens.
Et de redonner du... revenir à l'échelle humaine, finalement. Ouais. Et agir peut-être petit, mais local. Et mais si chacun fait ça dans son coin, bah finalement, moi, je ne crois pas au grand soir, au leader charismatique qui va être élu en France et qui va appuyer sur un bouton et qui va tout changer.
Ouais.
Ça, depuis le temps, ça se saurait. Hein. Par contre, plein de gens qui s'organisent
autrement
localement et qui font... qui portent ça. Alors après... j'avouerais qu'un peu de soutien politique local ferait du bien, mais bon.
Si on nous entend, le message est passé.
Voilà.
Oui, moi je m'étais noté qu'il n'y a pas forcément été évoqué les emballages, par exemple, c'est des choses simples, mais
oui, exact. Le fait de, alors on parle souvent de réduction. Le mieux c'est de ne pas produire d'emballage. Donc nous, on essaie de faire des trucs tout simples. C'est que on a refusé il y a quelques années de continuer à avoir des emballages plastique pour mettre les olives, etc., du vrac. Et finalement, on récupère les pots en verre de nos clients qui ont été utilisés, on les tare et on re-remplit avec des olives dedans. Alors ça peut paraître anecdotique, mais n'empêche que ça, c'est pas un déchet, parce qu'en fait, le pot, il est recyclé. Donc effectivement, il y a le vrac. Il faut savoir que le premier vrac, tout le monde parle du vrac, mais les fruits et légumes, c'est du vrac.
Ouais.
Et si on vient avec...
Jusque-là, ça marche à peu près bien.
Et ben, oui, et si on vient avec... on n'est pas obligé de prendre un sac pour chaque légume qu'on prend. On n'est pas obligé... On peut ramener ses emballages aussi. On peut avoir des petits sacs en tissu. Enfin, il y a plein de manières, effectivement, pour réduire cet impact-là. Après, ça reste encore... Enfin, je veux dire, quand on se promène dans le magasin, des fois, on se dit encore...
C'est dommage, tout ce
plastique. Alors même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais bon, c'est jamais. Voilà, quand on creuse, on parle de plastique biosourcé, mais si c'est pour faire, s'il faut planter du maïs pour fabriquer des emballages, c'est pas forcément beaucoup mieux. Donc,
vous parlez d'un magasin de proximité, magasin vivant. Mais c'est ce que j'ai vu ce matin quand je suis venu installer mon matériel. Il y a une heure ou deux, tout le monde se parle. Les gens ont l'air de se connaître. Il y a l'air d'avoir des habitués. Ça s'entretient, ça, j'imagine, ça se crée, cette tendance.
Ça se crée, ça s'entretient, ça commence par dire bonjour aux gens, ça commence par prendre le temps de discuter, ça s'entretient, et puis après, ça se fait tout seul, c'est naturel. Quoi. Les gens se croisent et ont envie de se parler, se disent bonjour. C'est l'inverse qui n'est pas normal, en fait.
Ouais.
Et on a perdu ce sens-là, alors que c'est une évidence. Quand on voit les gens, on les voit. Nous, on a aussi, comme on est en proximité, on a des clients qui viennent deux, trois fois par semaine. Quand on voit la même personne deux, trois fois par semaine, ça ne viendrait pas l'idée de ne pas lui dire bonjour quand vous le croisez dans la rue. Enfin, c'est... Donc finalement, oui, peut-être que ça s'entretient. Mais
avec des choses simples.
Mais en fait, ça, c'est normal. C'est comme ne pas être malade, c'est normal. C'est être malade qui n'est pas normal. Enfin, on a tendance à inverser les choses. Quoi. Donc,
Et c'est peut-être aussi avec des animations, en créant des rendez-vous et de la vie dans le magasin.
C'est en ouvrant le magasin aux gens. C'est vrai que nous, dès qu'on a des producteurs, on leur propose toujours de venir faire déguster, d'expliquer les choses, parce que c'est important de donner du sens, quoi. Donc c'est effectivement... Alors, on n'a pas beaucoup de place, mais on trouve toujours... on pousse les murs, on trouve toujours un petit coin pour poser quelqu'un. On a souvent des sollicitations... des gens qui font, je sais pas moi, des paniers en osier. Donc on essaie d'avoir, d'en faire un lieu ouvert dans la mesure de nos mètres carrés possibles. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'être ouvert sur la vie, sur les gens qui existent, enfin sur l'environnement, quoi, tout simplement.
Et donc aujourd'hui, vous avez reçu la Gonette.
Tout à fait. Aujourd'hui, on accueille la Gonette.
Alors, on va nous expliquer ce que c'est en détail, etc. Mais juste comme ça, dans, vous, en tant que magasin Saveur Nature, pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers la Gonette ?
Alors, la Gonette, c'est pas neuf. Hein. La Gonette, on a déjà été, été affilié à la Gonette il y a quelques années, quand il y avait un groupe qui s'était monté sur Villefranche. Et puis, c'est un peu capoté, faute de volonté, de dynamisme et... on n'était pas assez finalement pour porter ça. Donc quand il y a eu, vous êtes expliqué, hein, des évolutions qui permettent de simplifier les choses. La Gonette, c'est pareil, c'est assez logique. C'est avoir une monnaie locale qui est sortie des systèmes spéculatifs. Pour nous, c'est une évidence que de rentrer dans cette mouvance-là, parce que ça fait partie finalement de l'écosystème global. On essaie de promouvoir, donc du coup il faut faire connaître aux gens, parce que c'est pas forcément des fois on a l'impression de jouer au Monopoly, donc faut aller essayer pourquoi, voilà, au-delà du petit billet, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi, qu'est-ce que ça apporte. C'est pas forcément évident, parce qu'il y a aussi plein de choses que chaque citoyen ignore sur comment ça fonctionne derrière son billet ou sa carte bleue, quoi. Donc voilà, pour la Gonette, c'est pareil, c'est naturel d'accueillir la Gonette, quoi.
Très bien. On va en parler, on va voir ce que c'est. Moi, je propose qu'on fasse une petite pause, qu'on écoute un petit peu de musique. Et puis après, Blandine, vous nous expliquez comment ça marche, la Gonette. On va écouter, tiens, on se la pète un peu, on écoute du Nat King Cole, ambiance jazz avec Nature Boy.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Nat King Cole, je me permets de l'interrompre, mais c'est quand même trop la classe. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Nature Boy.
Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
On est toujours en direct du magasin Saveur Nature à Villefranche et maintenant on va s'intéresser à la Gonette qui est venue se présenter, c'est ça, ce matin. Pour nous en parler, on a deux personnes. On a donc Blandine Dufour qui est là et puis Jana Pitot également. Bonjour, rebonjour à toutes les deux.
Bonjour,
rebonjour.
Bon, alors la Gonette, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer, pour présenter l'idée?
Alors, la Gonette, c'est donc une monnaie locale, comme ça existe depuis 1934. On a du mal à le croire, mais après la crise de 1929, une première monnaie a démarré dans le canton de Bâle en Suisse, donc les spécialistes monétaires, comme on connaît bien.
Ouais.
Voilà, des entreprises TPE, PME s'effondraient après la crise de 1929 et une quinzaine de personnes se sont dit « il faut qu'on recrée une économie ». Donc, ils ont créé une monnaie qui s'appelle le VIR, W-I-R, ça veut dire « nous ». Voilà, auprès des TPE, PME, et ils ont créé la banque qui va avec. Donc les gens pouvaient laisser, enfin les professionnels pouvaient laisser donc leur franc suisse à cet endroit-là, et du coup ils faisaient des prêts à 0% d'intérêt. Et ça continue encore, ouais. Voilà, pour permettre à des entreprises de s'installer. Maintenant, 80 ans après, ils sont 60 000 TPE, PME dans toute la Suisse en fait à utiliser cette monnaie. En France, ça a démarré en fait en 2010, après la crise de 2008.
Ouais.
La première monnaie s'appelle l'Abeille. Elle continue d'exister à Villeneuve-sur-Lot, dans la Lot-et-Garonne. Et bon, celle d'après, c'était le Sol Violette à Toulouse. Et donc, son créateur est venu à Lyon pour le proposer. Et du coup, en 2012, une trentaine de citoyens lyonnais se sont dit bah, « Nous aussi, on va créer cette monnaie ouais. ». Voilà, il a fallu un certain temps de réflexion, de réunion pour mettre les choses en place, notamment le 19 mai 2014, ils ont créé l'association La Gonette. Donc La Gonette, c'est bien sûr le Gaune, l'enfant du Rhône, féminisé, parce qu'on a toujours besoin du masculin et du féminin.
Ouais.
Et voilà, depuis, la monnaie s'étend. Voilà, on a à peu près 400 partenaires professionnels, tous métiers confondus, qui acceptent d'être payés avec cette monnaie. Et on a à peu près 1500, 1600 utilisateurs, ce qui est peu comme une ville, même une ville comme Lyon et un ouais. département comme le Rhône quand même. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de venir tenir des stands dans des magasins, nos partenaires, donc Saveur Nature, qui était présent, donc, comme disait Marjorie, déjà en 2015-2016, quand nous avons démarré, le 7 novembre 2015, nous avons mis en circulation donc, les premiers billets. Depuis, pour faciliter le paiement, notamment entre professionnels, pour qu'ils puissent payer leurs factures par virement, puisque les professionnels ne se payent les factures que comme ça. Donc en novembre 2019, nous avons installé donc, la monnaie numérique qui existait ouais. déjà auparavant, puisqu'on le voit dans le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion. On voit une jeune fille payer son café, une jeune fille anglaise payer son café avec son téléphone. Donc, bien sûr, on n'a aucun rapport avec les banques commerciales. Hein. C'est ouais. juste voilà, une création d'un compte.
Mais du coup, la voilà. Gonette, aujourd'hui, elle marche comme n'importe quelle monnaie. On a des billets de liquide et on a la possibilité de le faire
voilà,
de façon numérique.
Une appli sur notre téléphone smartphone. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce système.
J'ai entendu ce matin.
Voilà. Alors, nous-mêmes, nous avons attendu quand même un certain temps avant de le mettre en place. Parce que, bien sûr, tout le numérique, c'est... voilà, c'est souvent refusé hein, oui. par des gens très écologiques et autres.
Ouais.
On a attendu, hein, puisque ce système existe depuis 2015. C'est un système numérique qui a été créé par une entreprise pour les monnaies locales. Et donc, on a attendu. Et puis, en fait, en 2019, on a vu que nos partenaires professionnels finalement ne se payaient très peu en gonette parce qu'ils ne pouvaient pas sortir le soir à 20h pour aller payer leurs factures. Voilà, donc il fallait vraiment, on a été un peu obligés pour pouvoir permettre à la monnaie de s'étendre. Et voilà, on était un peu obligés d'utiliser, de mettre en place donc, cette monnaie numérique. Et en fait, bon, les professionnels en sont très contents.
Ouais. Oui,
ils se payent, voilà, et les échanges se font bien. Et puis pour les particuliers, dans une grande ville comme Lyon aussi, souvent les gens doivent courir quand ils sortent du boulot, aller chercher les gamins à l'école, ou voilà, aller chercher des gonettes, d'abord des euros, ensuite des gonettes chez un de nos 60 partenaires qui sont comptoirs de change, et ensuite aller les dépenser ailleurs, parce que ce qu'il faut, c'est que la monnaie circule. que la richesse, enfin le fait que la monnaie circule fait de la richesse, hein, vos euros si vous les gardez dans votre poche, finalement c'est qu'un bout de papier ou quelques pièces, ça n'a aucune valeur à partir du moment où vous le mettez en circulation, ça a de la valeur. Ouais. Donc c'est important que cette monnaie circule, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette monnaie numérique, comme ça les gens de leur canapé peuvent faire un virement sur leur compte numérique et ils vont dans leur magasin donc dépenser ou acheter une bière ou voilà ou aller chez leur médecin.
Bon alors moi voilà. Je suis un particulier qui arrive ce midi là à la Gonette, qui voit votre stand, qui découvre qu'on peut payer à Saveur Nature en Gonette et je me dis pourquoi pas. Comment ça se passe à partir de là après? Comment est-ce que je peux avoir des billets de Gonette qui sont d'ailleurs très jolis, l'application sur mon téléphone pour pouvoir payer? Comment ça marche?
Alors il faut être adhérent de notre association, puisque c'est une association la 1901. La loi de l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 autorise, donc on était le premier pays mondial en fait à faire une loi pour encadrer les monnaies locales qui existaient déjà auparavant. Donc qui autorise les citoyens français à avoir leur propre monnaie dans un secteur déterminé. Donc nous, citoyens qui avons mis en place cette monnaie, on a choisi le bassin de l'emploi de l'INSEE. Donc c'est le département du Rhône et puis on déborde légèrement sur l'Ain, l'Isère et la Loire. Et il faut qu'il y ait autant de cette monnaie en circulation que d'euros en fonds de garantie. D'accord. C'est-à-dire qu'actuellement, on a à peu près 600 000 gonettes en circulation et on a 600 000 euros dans deux banques éthiques, le Crédit Coopératif et la Nef, qui sont des banques qui s'occupent de l'économie sociale et solidaire, pour qu'on puisse rembourser les gonettes en circulation si jamais on doit arrêter l'association pour une raison ou une autre.
D'accord.
Et puis, les professionnels, en fait, ont besoin d'euros, quelquefois, ouais. Puisque eux-mêmes, ils ont plusieurs façons donc pour mettre en circulation cette monnaie. Déjà, ils inscrivent en euros dans leur comptabilité. Donc, il n'y a pas de problème de TVA.
Ouais.
Ils peuvent ensuite payer leurs fournisseurs qui sont bien sûr adhérents de notre association. Ils peuvent payer les salaires de leurs salariés, leur propre salaire. Ils peuvent être comptoir de change. Donc, moi, utilisatrice, je vais aller chez un de nos partenaires comptoir de change pour aller changer mes euros en gonettes parce que j'aime bien continuer aussi avec la monnaie papier, pas uniquement avec le numérique. Et donc, la loi les autorise, mais uniquement pour les professionnels, pas pour les particuliers. Ils les autorisent à faire la reconversion en euros.
D'accord.
Parce que forcément, c'est leur trésorerie. S'ils n'arrivent pas à mettre en circulation tout ou partie, disons, de leur gonette, et ben à ce moment-là, ils nous préviennent. On leur fait l'échange immédiat en euros, ce qui est normal. Et puis nous, on réutilise les gonettes autrement, auprès d'autres utilisateurs ou d'autres partenaires.
Très bien. Et donc, il y a des comptoirs. Alors, j'imagine que c'est plutôt en région lyonnaise et qu'à Villefranche et dans le Beaujolais, il n'y en a pas encore. Mais
alors, voilà, il n'y en a pas encore. Comme disait Marjorie, bon, déjà en 2015-2016, ils étaient implantés ici. On avait déjà une dizaine de partenaires. On avait deux viticulteurs. Voilà, on avait d'autres commerces, dont certains qui étaient comptoirs de change. Mais comme c'était que de la monnaie papier, c'était un petit peu compliqué pour leur fournir cette monnaie, leur apporter la monnaie. Il y avait effectivement un groupe local d'une douzaine de personnes, malheureusement, qui n'a pas continué pour X raisons. Donc ça devenait vraiment compliqué parce que ces gens du groupe local venaient travailler sur Lyon. Donc ils pouvaient passer à notre bureau qui est rue Humbert Colomès sur les pentes de la Croix-Rousse. Et donc ils venaient chercher du stock de gonettes. Et puis bon, voilà, après, comme le groupe s'est désagrégé, il y avait ce problème de venir chercher cette monnaie papier. Voilà. Mais éventuellement, si on a beaucoup de partenaires ici voilà, qui démarrent ou redémarrent, on pourra s'arranger puisqu'on a un groupe local qui existe à Neuville-sur-Saône, voilà, Val-de-Saône-Mont-d'Or, donc des bénévoles, et qui viennent quelquefois faire leurs courses sur Villefranche. Donc ils pourront apporter de la monnaie papier s'il y a besoin.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vrai que la monnaie numérique est plus facile quand on est un petit peu loin de notre siège, en fait, voilà, qui est dans le premier arrondissement.
Ouais, j'ai vu, il y a une carte sur votre site internet où on voit tous les partenaires, tous ceux qui participent, et on peut savoir où est-ce qu'on peut aller
faire ses courses. Voilà, c'est une carte interactive, et notamment ceux qui sont en bleu, ils sont comptoirs de change.
D'accord.
Ils sont bien sûr partenaires, mais aussi comptoirs de change, chez qui on peut aller.
Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais bien quand même qu'on rappelle les intérêts d'une monnaie locale. Parce qu'on a expliqué ce que c'était, comment ça fonctionnait, mais pourquoi est-ce que je préfère payer en gonette plutôt qu'avec mes euros qui, jusqu'à maintenant, moi, ça me marche très bien?
Alors, ça marche très bien, seulement les euros, on ne sait pas où ils vont, en fait.
Ouais.
On ne sait pas d'où ils viennent et on ne sait pas où ils vont. au bout de 3 transactions, même, ça va quitter notre territoire de la Gonette, en fait, du département. Ça va partir ailleurs pour l'économie nationale et l'économie européenne, ce qui est aussi normal. L'avantage d'une monnaie locale, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a quand même 84 monnaies locales en France, hein, il y en a 300, plus de 300 dans le monde, il y en a sur tous les continents. L'avantage d'une monnaie locale, c'est qu'elle va rester sur un secteur, sur notre secteur déterminé, enfin pour la Gonette en tout cas, puisque c'est une monnaie qu'on ne peut pas mettre à la banque. Donc c'est une monnaie qui va enrichir indéfiniment ce territoire. C'est-à-dire au lieu de garder les billets ou la monnaie numérique sur le compte numérique, en fait on va l'utiliser, c'est-à-dire qu'on va payer des fournisseurs, on va payer des salaires, et c'est une monnaie qui va circuler, puisque toute monnaie qui circule apporte de la richesse sur un territoire. Si vous gardez vos euros dans votre poche, c'est qu'un bout de papier. À partir du moment où vous le mettez en circulation, vous achetez votre baguette, et bien à ce moment-là, elle prend de la valeur. Et donc c'est le cas pour les monnaies locales. Ça va... En plus, c'est une monnaie, je dirais que 1 euro égale, ou une gonette égale 3 euros. Parce qu'en fait, votre euro que vous allez changer en monnaie locale, quelle qu'elle soit, enfin surtout les gonettes en fait, déjà vous allez avoir cette gonette que vous allez utiliser pour acheter votre baguette par exemple. L'euro que vous aurez changé va être mis soit au crédit coopératif, soit à la NEF, et va être utilisé par cette banque pour faire des prêts pour des entreprises de l'ESS qui viennent s'installer sur notre région. Et en plus, la NEF, qui est donc un établissement financier, s'est engagée à doubler cet euro pour faire des prêts. Donc une gonette égale 3 euros.
D'accord.
Voilà. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que quand vous allez payer en monnaie papier ou monnaie numérique, le commerçant ou le prestataire de biens et de services que vous allez payer va garder pour lui la totalité de la somme que vous lui aurez payée. Alors que quand vous payez avec une carte bleue, la banque en garde un petit pourcentage.
D'accord.
Donc ils n'ont pas la totalité. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment un enrichissement important.
Ça permet vraiment de contrôler, de maîtriser là où va son argent, à quoi ça sert, et donc de rester dans le local et de faire fructifier l'économie qu'on a autour de nous. Si je veux en savoir plus, aller plus loin, comment je m'y prends ?
Alors, vous pouvez aller sur notre site www.lagonette.org. Vous verrez que nous faisons des opérations aussi un petit peu en dehors de tout ça, et notamment avec des étudiants de Lyon 2. Voilà, on a toute une étude. Je vais passer. On a encore un peu de temps ?
Oui, on va prendre 2 minutes.
Alors, je passe la parole à Jana, donc, qui est salariée donc, de l'association et qui s'occupe de ça.
Exactement. En fait, en plus d'être une monnaie du coup écologique et non spéculative, c'est aussi une monnaie solidaire, en tout cas de plus en plus. Notamment parce que les collectivités ont adhéré à la Gonette. Avec la ville de Lyon, il y a un projet, une expérimentation sur 2022 avec aussi AgriBio et l'Université Lyon 2. Et en fait, il y a 100 étudiants sur toute l'année qui reçoivent chaque mois des Gonettes.
Ouais.
C'est des étudiants en situation de précarité. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment une étude sur les pratiques alimentaires des étudiants quand ils reçoivent cette Gonette en fait, chaque mois. Donc où est-ce qu'ils vont dépenser leur Gonette ? Est-ce qu'ils vont préférer s'acheter un ordinateur, parce qu'on peut très bien acheter un ordinateur reconditionné à la Gonette, ou est-ce qu'ils vont plutôt l'injecter chez des épiciers du réseau ? Et du coup, à ce moment-là, avoir accès à une alimentation plus saine, de qualité, plus locale et souvent plus bio aussi.
D'accord. Ça a commencé quand ?
Ça a commencé en janvier 2022 et ça termine en décembre 2022.
Et donc, pour l'instant, on n'a pas de résultats.
Enfin, on n'a pas encore les résultats, okay. Ouais. On voit quand même qu'ils injectent beaucoup auprès de l'alimentaire, donc
ouais.
Vraiment des épiceries du réseau. Et le but, c'est justement de voir comment ce projet, après, peut... Enfin, trouver une vraie place, on va dire, dans la ville.
Ouais.
Donc, pourquoi pas auprès d'autres publics, défavorisés ou non, à voir ensuite comment ça repart.
D'accord, c'est un super projet. Et les résultats, on les aura du coup en début d'année 2023.
J'espère, je pense, premier semestre 2023, ouais. J'espère. Ouais.
Vous nous rappellerez pour nous en parler ?
Ouais.
Super.
Je repasserai.
Merci beaucoup. Donc je rappelle, ouais, il y a un site internet où on peut aller se renseigner et s'inscrire à l'association.
C'est ça, ouais. Et n'hésitez pas, on fait des formations monnaie locale. Très souvent, on retrouve toutes les dates sur le site internet.
Voilà, et notamment pour les professionnels, une fois par semaine, on fait un webinaire, donc où ils peuvent poser leurs questions pendant à peu près une heure et demie. Voilà, donc il n'y a aucun problème pour ça.
Très bien, merci beaucoup.
Aura des pâquerettes. Si vous habitez dans la région lyonnaise et que vous voulez en savoir plus sur la Gonette, je vous redonne le site internet, c'est tout simplement lagonette.org.
Benji, bada Benji, prends le mic. Madame Mikey, mon ami, non, je ne viens pas gollerie, seulement DJ. Être à lui parler de ce fléau qu'on appelle la monnaie, cette chose pourrie. Les esprits, puis petit à petit, voilà que la déprime sévit sans répit. Mais dit, pas de panique, même si la situation est critique. Pas de madame, mathématiques, si t'as pas de patrick, tout s'explique. L'argent a pris le monopole dans la société. Plus personne ne peut l'arrêter, plus personne ne peut le contrôler. Plus moyen de survivre, si tu n'as plus de fric, ta vie est en jeu, tu es pris de panique.
En effet, c'est la panique, c'est dans ton porte-monnaie. Tu n'as plus de fric, tu ne peux plus satisfaire tes envies. Pour toi, la vie est finie. Tire-toi une balle dans le crâne et arrache-toi au paradis. Wouh, arrache-toi au paradis. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
L'argent est partout, à tous les coins de rue, dans tous les esprits, mais dans les poches, y'a rien. De crise monétaire de nos jours par les politiciens. Certains sont corrompus, d'autres deal avec le malin. L'argent se fait si rare que dans le ghetto, des gens meurent de faim. La jeunesse est marginalisée pour s'en procurer tout est bien. Beaucoup font du business pour subvenir à leurs besoins. Faut pas leur en vouloir parce que si t'as pas de caillasse, t'es en chien. Tout le monde sait que sans argent, tu n'es rien.
Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mini, madame, demande money dans ta main. Ne ferai pas de mal, mais ça ne m'en sort pas en volant et ni en tuant. À partir de ce moment, seulement tu es fier de ton argent. Mais quand sur tes billets reflète la couleur du sang, soit tu n'es pas intelligent, soit tu n'as pas de sentiment. Mais fais preuve de réflexion et change ton comportement.
Oui, fais comme les nègres marrons qui gagnent leur vie intelligemment. Nous, on ne charge pas pour l'argent, mais de nos jours, rien ne se fait gratuitement. Donc si tu veux nous écouter, paye cash.
T'es content, car dans ce pays, si t'as pas de caillasse,
tu es en chien.
Si t'es pas un escroc,
tu es en chien.
Si t'es pas businessman,
tu es en chien.
Si t'es pas un lascar,
tu es en chien.
Si t'es pas net marron,
tu es en chien.
Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Aura des pâquerettes.
L'artiste Kent, ex-leader du groupe de rock français Star Shooter, dans les années 70, en tournée pour la sortie de son dernier album, Scherzando, l'emprunt d'un mot italien qui veut dire « légèreté ». Et c'est en toute allégresse que l'artiste, auteur, compositeur, romancier, dessinateur de BD, partage avec son auditoire son don et talent au fil des années sur les scènes et planches. Rencontre d'un artiste, quelqu'un de bien.
Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à porter aux deux mains. Juste quelqu'un de bien.
Sans... Nous sommes à côté de Lyon, nous, dans le Beaujolais, et c'est une ville qui vous est chère puisque vous l'avez chantée.
Oui, 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 bien sûr. Ben, Lyon, ça m'est cher. Ça m'est plus cher que je m'y attendais, en fait. Je ne pensais pas être aussi attaché. J'ai été détaché de Lyon. Voilà. Et c'est revenu.
Mais à chaque fois que je reviens, déambuler dans ta presqu'île, chez toi je me sens vraiment bien. Tu es ma ville.
Je crois que ça fait, Lyon me fait le même effet que parfois des. Vous savez, quand on quitte sa famille parce qu'on veut vivre émancipé à l'autre bout du monde, et puis qu'au bout d'un moment, ben, il nous manque ces gens-là, quoi. Ben, Lyon m'a fait cet effet-là. Et en plus, Lyon a changé depuis que je l'ai quitté, vraiment énormément, et je la trouve plus belle.
Dissipée, rebelle, c'était un peu votre enfance, un peu de violence, là, votre adolescence, ou pas du tout?
Pas l'enfance, l'adolescence, dissipée, rebelle, oui, 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 oui. Je crois que j'ai eu de la chance enfin la chance, c'est bien que mon intérêt se soit porté sur le rock. Et la bande dessinée aussi, d'ailleurs. Parce que je pense que j'aurais été quelqu'un de je ne vais pas dire brutal, ce n'est pas le mot, mais je suis un grand énervé, quoi. Donc il fallait que ça passe, il fallait que cette énergie, je la dépense le mieux possible.
Alors la belle époque, hein, pilote, métal hurlant, avec des belles plumes, hein, c'était une époque foisonnante. Hein.
Ah bah, en bande dessinée, c'était, je pense, la meilleure époque, honnêtement. Et je pensais que ça faisait vieux con de penser comme ça, mais quand je vois que métal hurlant est réédité maintenant, qu'on demande même de ressortir les vieilles bandes et tout ça. On m'a réclamé justement la semaine dernière une histoire ancienne que je dois leur apporter. Je me dis que bon, voilà, ça touche pas seulement. C'est pas une affaire de nostalgie de l'ancienne génération, c'est aussi. Là, aujourd'hui, ça, cet esprit-là manque. Ça fait un peu l'effet. Il y a des périodes en fait dans l'art, comme la période surréaliste, impressionnisme. Voilà, il y a des moments comme ça, on se dit qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à Montparnasse à ce moment-là. Et je crois que maintenant, on commence à dire qu'est-ce que j'aurais aimé vivre la bande dessinée et le rock à ce moment-là, quoi, années 70, ouais, parce que. Effectivement, c'était une explosion, et en plus une explosion joyeuse, quoi.
Oui, c'était enchaîné avec le rock français, les talents du rock français. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement différent.
Ah, c'est complètement différent. Là, je n'ai... Alors, vraiment, c'est un autre monde, c'est une autre façon de faire la musique. La musique a beaucoup changé, et la manière de la faire aussi. Ça s'est très professionnalisé, trop, à mon goût. Voilà. On manque de... On a écarté les fous. Et c'est dommage, parce que c'est les fous qui font bouger les choses. Voilà. Si Metal Hurlant existait, c'est parce que c'était une équipe de fous. Et si le rock a explosé, c'était aussi parce que c'était des... À ce moment-là, on transgressait. Voilà.
On n'était pas dans les rails.
Voilà, on n'était pas dans les rails. Or, maintenant, tout est dans les rails. J'aurais même, quand je vois des images du Hellfest, c'est bien, on va au Hellfest comme on va à Luna Park. Donc ça fait un peu bizarre.
Revenons maintenant avec vous, et puis dans ce petit écrin effectivement de l'auditorium, alors, dans un écrin intimiste, qu'est-ce que vous avez envie de faire ressentir ?
Moi j'aime bien la proximité, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'aime bien la complicité qu'entraîne un lieu comme l'auditorium, mais je ne veux pas non plus dire que c'est ça qui me plaît le plus, demain je serai dans un théâtre à l'italienne, ça me plaît énormément d'être là-dedans, puis si, dans le hasard de la tournée, je dois jouer dans une salle des fêtes... ou une salle des sports qui n'est pas faite pour des spectacles et qu'il faut quand même faire le concert, je ferai tout pour que les gens oublient qu'ils sont dans une salle de sport. Voilà. L'idée, c'est d'hypnotiser, je dirais. D'abord, c'est s'hypnotiser soi-même pour oublier ce qu'il y a autour, et puis hypnotiser les gens pour les balader dans notre univers.
Oui. Pourtant, on n'est pas pareil, j'imagine, dans une petite salle comme on est peut-être dans une grande salle. Il y a des différences ou non ? On fait le show quand même ?
J'appréhende la scène comme partout pareil, voilà. Même en plein air. Et, voilà, il faut d'abord penser aux chansons, il ne faut pas penser à ce qui nous passe par la tête. C'est-à-dire, voilà, je vais chanter ces chansons, il faut que je les chante le mieux possible. Alors oui, des fois c'est des challenges, c'est vrai. Et quand je dis salle de sport, je vous cite quelque chose qui m'est arrivé, qui m'arrivera sûrement encore. On joue parfois dans des endroits où c'est la seule salle où on puisse... Ça puisse se faire, c'est une salle de sport, ben on fait dans une salle de sport, point, puis voilà. Quoi.
Est-ce qu'on chante, c'est un long répertoire, effectivement, et tant mieux, est-ce qu'on chante les mêmes choses à une certaine époque, on les a chantées d'une façon, puis aujourd'hui, quand vous les reprenez, c'est toujours un véritable plaisir, ou on les aborde différemment ?
Alors, là, pour le coup, le répertoire, c'est un travail assez cérébral pour moi. D'abord, le répertoire se construit autour de l'esprit, ben par exemple, du dernier album. Bon, le dernier album, je l'ai fait avec mes deux musiciens, que vous avez vu, Marc Haussmann au piano et Alice.
Scherzando,
ouais. Montez dans l'express Scherzando Express. Et donc on est un trio, guitare électrique, guitare acoustique, piano et les voix. Et à partir de ça, de ce répertoire de l'album, je choisis des chansons qui vont se marier avec le son. En fait, j'adapte les chansons de mon répertoire, de façon, celles qui iront le mieux avec l'état d'esprit actuel que j'ai. Voilà. Donc ça m'amuse beaucoup parce que c'est une véritable adaptation musicale qu'on fait des morceaux et ça m'évite de me lasser de jouer toujours les mêmes chansons des fois. Et ça c'est un point. Puis de toute façon quand je suis lassé de jouer une chanson, je la joue pas. Donc parfois ça fait des déçus, mais voilà, je ne joue pas systématiquement mon best-of.
Alors c'est le plaisir du spectateur, mais c'est aussi votre plaisir à vous.
Je cherche le plaisir du spectateur, mais c'est mon plaisir à moi. Si je suis bien sur scène, je pense que ça se ressentira. Voilà. Si je me sens obligé de faire des choses, je ne serai pas bien, donc ce sera un mauvais concert. Donc, j'ai toujours agi comme ça. Je ne dis pas que c'est la formule gagnante, loin de là. Je pense que les chanteurs qui vont dans le sens du poil de leur public rameutent plus de monde, mais c'est pas mon caractère. Voilà.
Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Vous avez parlé d'esprit, du moment, aujourd'hui, en ce moment.
Alors, je suis dans le carpe diem depuis quelques années maintenant, et plus que jamais, parce que voilà, j'ai 65 ans, je ne m'en cache pas, je ne le cache pas non plus. J'ai 45 ans de carrière, j'ai moins d'années qui arrivent que d'années que j'ai vécues. Je ne dis pas ça de manière triste, c'est comme ça, c'est la vérité. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est du bonus. Voilà. Je ne comptais pas refaire de la musique, sincèrement. Je pensais à ma dernière tournée que c'était ma dernière tournée. Je n'avais pas envie de refaire de disques, et puis c'est arrivé parce que c'est plus fort que moi, c'est pathologique. Quoi. J'écris des chansons même quand je ne le veux pas. Donc voilà.
Vous avez dit quelque part, je ne maîtrise pas toujours le processus de création de mes chansons.
Non, 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 et c'est bien, et je laisse aller, alors qu'avant ça me paniquait de pas arriver à contrôler tous les mots, tout ça, enfin je disais ça me paniquait, non c'est pas vrai, au contraire, c'était même, ça me manquait je voulais perdre le contrôle sur l'écriture de mes chansons, et je n'y arrivais pas, parce que voilà. Et là maintenant, voilà, c'est pas une affaire de contrôle en fait, il faut être branché... Il ne faut pas qu'il y ait de réflexion dans les chansons. Et quand je dis que je ne contrôle pas tout, c'est ça. Il y a beaucoup de chansons, la plupart de mes nouvelles chansons maintenant, je les écris, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Une fois que j'ai fini la chanson, et quand je dis quand je finis la chanson, ce n'est pas seulement les textes, c'est aussi la musique, je suis surpris. Je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai fait ça. Je parle de ça aussi. Des fois, je suis curieux, je ne m'attendais pas à ça. Une chanson comme Ta liberté dans mon dernier album.
Elle plane plus haut que les tours de Shanghai. Elle a les nuages en bataille. Quand tu l'embrasses, tu défailles. Ta liberté.
Au début, c'était pas une chanson où je m'étais dit je vais parler de la liberté. J'ai écrit des phrases. Et puis ça ressemblait à une chanson d'amour de quelqu'un qui aime une autre personne difficile à aimer. Puis je sais pas, au fur et à mesure que j'avais ce texte, puis je me suis dit, c'est un peu bateau, quoi. Et qu'est-ce qui m'est arrivé pour que le mot liberté me vienne en tête, et ça a été bon sang, mais c'est bien sûr. La chose, la personne la plus difficile à aimer, c'est sa liberté.
La liberté, vous la cherchez tout le temps, vous-même, vous la souhaitez pour les autres, bien évidemment, j'imagine. C'était quelque chose qui est important dans votre vie, cette liberté.
Oui, mais tout le monde ne sait pas vivre avec la liberté. Ça fait même peur à certains, au point que justement beaucoup de personnes, veulent nous imposer des règles parce qu'ils sont effrayés de la liberté, ou peut-être qu'ils sont jaloux parce qu'ils n'arrivent pas à vivre libre. C'est aussi possible. Moi, j'essaie au mieux dans les cadres dans lesquels de société dans lesquels on vit d'être le plus libre possible. Mais je sais qu'il y a des tas de gens pour qui c'est une panique, la liberté.
Scherzando, c'est liberté, je crois.
Non, Scherzando, c'est avec légèreté, allégresse. C'est un terme de musique classique qui signifie ça. Et c'est un terme italien donc, qui se conjugue et qui veut dire en plaisantant. Voilà, c'est une manière de prendre les choses à la légère. Ça définit l'album parce que c'est la manière dont il s'est fait. Vraiment, autant les sujets peuvent être effectivement parfois graves, mais la manière dont je les ai abordés et surtout la manière dont on a enregistré l'album, où l'album s'est fait, c'est fait comme ça, quoi. Alors, ça fait toujours bizarre de voir que je vais parler d'une chanson sur le décès d'une personne, je vais parler justement de la liberté, je vais parler du temps qui passe, on va dire, oh là là, ça va être dépressif, mais pas du tout. Pas du tout, j'en parle avec légèreté, c'est tout.
les mots, qui, vous cherchez les mots, tout à l'heure vous avez dit, est-ce que ça, la mélodie, la petite mélodie qui arrive avec les mots, pas du tout?
Ah oui, c'est bordélique ma façon de faire, honnêtement, hein, j'écris pas un texte puis après je cherche les paroles, parfois, il m'arrive d'écrire des textes orphelins parce que l'inspiration vient, j'écris, puis voilà, et après je vais coller une mélodie, puis il m'arrive aussi d'avoir des mélodies qui viennent sans mots, alors j'ai mon dictaphone et j'enregistre mes mélodies, et quand le... À un moment donné, ça devient pressant pour moi d'écrire des chansons, d'aboutir ces idées-là. Je prends ma guitare et là, je construis, je ramasse les bouts. Je suis comme un archéologue qui a trouvé des ossements d'un dinosaure et puis il refait la bête. Bon, voilà. Bon, c'est pas si l'image est très juste, mais ça me fait un peu penser à ça, quoi. Voilà, je construis quelque chose avec des éléments que j'ai. Pour certaines chansons, ça peut arriver en une demi-heure, puis d'autres, il va me falloir 20 ans.
Kent, vous aimez les gens. En tous les cas, dans les chansons, on a l'impression que vous aimez les gens.
Alors, j'aime bien cette parole de Jonathan Swift, qui dit « Je n'aime pas les gens, mais j'ai une certaine tendresse pour John, Paul ou Marie. » Enfin, voilà. Ben voilà, c'est ça. Les gens, en général, je ne suis pas sûr. La foule, tout ça, moi, ça m'effraie. Les grands mouvements de foule m'effraient. Et même la vox populi, comment elle circule dans les réseaux, tout ça, ça, j'aime pas du tout. Par contre, effectivement, alors pour revenir au début de notre entretien, d'être dans un lieu comme ça, de m'adresser aux gens, de savoir qu'ils sont là, qu'on est sur la même longueur d'onde, ça me va. Et puis même après le concert, que si les gens restent et qu'ils veulent parler avec moi, il n'y a pas de problème, quoi. Mais les gens sont bons et beaux quand ils sont seuls. En groupe, ça devient très vite incontrôlable.
Vous êtes solitaire alors?
Ah, je suis même misanthrope. Non, j'aime la solitude. Je suis vraiment très heureux quand je suis tout seul sur mon vélo en randonnée, quand je pars comme ça pour des jours. Là, je suis heureux comme tout.
Il roule sans se retourner, sans même y penser. Il roule à tout. Il est prêt pour y arriver. Il ne connaît pas les remords, les regrets.
Vous avez des humeurs, des remords, des regrets?
Oui, j'en ai. C'est pas ceux du personnage de la chanson, c'est sûr. Mais j'en ai, bien sûr. Ça m'inquiéterait de ne pas en avoir. Je pense que les gens qui n'en ont pas, moi, mais, enfin, c'est pas que je pense, les gens qui n'en ont pas m'effrayent un peu. C'est des gens qui vivent sur le présent et qui, ce qui est passé est passé, c'est pas vrai, c'est pas passé. Même si pour eux tout va bien, ils ont laissé des cadavres, entre guillemets, derrière. Voilà, il faut. Et donc, moi, j'ai toujours ce. Peut-être même un peu trop, d'ailleurs. Des fois, je sens que j'ai fait une mauvaise action et je vais en avoir le remords toute ma vie. Alors que l'autre personne ne va pas s'en souvenir. Je me rappelle d'une fois avec mon fils, comme ça, ou enfant, un jour, je me rappelle, j'avais grondé, mais assez méchamment, quoi. Et je m'étais voulu, après, on me dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et j'en avais parlé, mais des années plus tard, à mon fils, il me dit, je m'en souviens pas. Donc voilà.
C'est un ruminant, alors, quand même, un petit peu.
Ah oui, c'est un bon terreau, de la rumination, pour écrire des chansons. Voilà.
Ah, vous allez piocher dedans alors.
Ah, bien sûr. Mais mes chansons, c'est mon remède. Je fabrique moi-même mon remède à mes mots et ma UX. Voilà. Si j'étais quelqu'un qui était équilibré et qui allait bien, je n'aurais pas besoin de faire des chansons. Voilà. L'art, ça sert à ça. C'est une béquille, un placebo, tout ce que vous voulez. Pour celui qui le fait et pour ceux qui le reçoivent. Voilà. Si vraiment tout le monde allait bien dans sa tête, je crois que l'art n'existerait pas.
Deuxième béquille, celle du dessin, effectivement, puisqu'on passe du côté un peu noir aussi de temps en temps. Hein. Le graphisme est un peu noir aussi de temps en temps. Il l'a été, en tout cas.
Ah oui, alors ça, je crois que... Je me demande qu'est-ce qui a déclenché. Est-ce que c'est parce que je ne savais pas manier les couleurs que je me suis aimé le noir et blanc? Ou est-ce que c'est parce que j'aime beaucoup le noir et blanc que je ne sais pas manier les couleurs? Mais voilà, je suis là. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc. En dessin,
aussi,
en film aussi. Je trouve que c'est beau, ça. Il reste l'essentiel dans le noir et blanc. On ne se perd pas dans le détail, dans la joliesse.
Dans
le noir et blanc, voilà,
l'esthétique.
Ouais.
Vous avez dit une fois, et vous avez interrogé, en tous les cas, avec un point d'interrogation, à quoi rêvons-nous?
Ah ben, c'est voilà, c'est grande question. Je vous la pose.
Bon, je finirai alors par dire, vous demander si vous êtes un homme heureux, Kent.
Pas fondamentalement. Je cherche je cherche à rire, je cherche à m'amuser, je cherche le bonheur, je cherche celui-là. Mais
toujours,
oui, bien sûr. Je cherche à passer des bons moments, voilà, tout le temps. Fondamentalement, je lutte contre une noirceur permanente.
En espérant que vous ayez passé un bon petit moment.
Non, mais ça va bien. Puis regardez, je suis là, bon, encore une fois, je continue à faire des chansons à 65 ans, c'est donc, je pense que j'ai trouvé la bonne façon de me guérir. En tout cas, le traitement est à vie.
Vous avez peut-être un peu guéri les autres aussi, de temps en temps.
Mais on me l'a dit, et ça me réjouit. Si, ça peut si je peux servir à ça, c'est déjà bien. C'est vraiment bien.
À quoi rêvons-nous quand nous ne rêvons pas à cette personne idéale qui marcherait dans nos pas?
Ce que je vois, ce que je vis, ce que je pense, mon cerveau le traduit en vers et en mélodie. C'est plus fort que moi. Alors, j'ai écrit des chansons. Scherzando, titre du dernier album de l'artiste Kent.
Une insomnie rampe sur les draps. La nuit gravit le lit en pente. Les ombres conversent en silence, dessinent des pensées sur les murs. Elle joue avec les apparences, engendre d'étranges créatures. 3h40. 3h40 ouvre la porte à l'alizé des souvenirs, reviennent alors du fond des ans. Des revenants. Et le plafond me happe et me balance à travers le temps et l'espace, jusqu'au générique d'une existence au parfum de lilas, de terre mouillée, sur fond de campagne et de cheminée d'usine. Quand l'enfant que j'étais accourait vers la voie ferrée pour voir passer des trains chargés de promesses, et qu'il s'imaginait sauter un jour prochain à bord du Scherzando Express.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des